Salut à toutes et à tous, ce mois-ci on va parler d'un sujet qui a changé la vie de pas mal d'entre nous. Imagine un mélange d'émerveillement, de bonheur intense et à la fois de fatigue extrême et de désespoir infini. C'est ce qu'on peut ressentir quand on devient parent. Que tu sois en cloque, que tu aies un polichinelle dans le tiroir, que tu attends d'un heureux événement, peu importe comment t'appelles ça, mais une chose est sûre, entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a parfois un gouffre abyssal. La parentalité, c'est le thème de ce mois de mars, et en particulier la grossesse et la maternité. Alors, j'ai jamais traité ce sujet dans le podcast et il était temps que je le fasse, parce que c'est une étape tellement importante de notre vie et ça a été une étape tellement importante de ma vie. Devenir parent, ça change complètement la vie et c'est sans aucun doute la chose à la fois la plus belle et la plus difficile qui nous est donnée de vivre. Je vais traiter de ça avec un peu d'humour évidemment, comme toujours, et tu vas apprendre plein de vocabulaire lié à ce sujet, de la grossesse au parentage en passant par l'accouchement évidemment. On a plein de termes spécifiques et d'expressions qu'on utilise uniquement pour cette période de la vie. Et puis je partagerai quelques anecdotes à mon sujet, évidemment, notamment liées au fait que j'ai vécu toute cette étape à l'étranger, en Espagne. Mais avant de plonger dans le grand bain des nausées, des contractions et des nuits blanches indésirées, j'ai une annonce spéciale à te faire cette année. Je participe au Podcaston, un événement caritatif mondial qui met en avant des associations humanitaire. Je vais donc consacrer un épisode à une association, ça sera celui de la troisième semaine de mars, le troisième vendredi de mars, et à cette occasion je recevrai une copine pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais je t'en dis pas plus pour le moment. Si tu veux en savoir plus sur le podcaston, je te mets le lien dans la description de cette émission. Allez, on se retrouve juste après le générique.
The French Instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais.
Vous écoutez The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français avec authenticité et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy. Je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues, et tout au long de ces émissions, on va parler de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'autres pays, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Merci d'être fidèle au poste, comme on dit, si vous êtes des habitués du podcast. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau sujet. Ce mois-ci, ça va être le thème de la parentalité et notamment de la maternité. La maternité, la parentalité, on imagine souvent ça comme quelque chose d'idyllique, hein, de vraiment merveilleux. Et ça peut l'être, mais pas que, il faut bien le reconnaître. Si tu es parent, tu sais exactement de quoi je parle. Et si tu ne l'es pas, ben j'imagine que tu vas être touché aussi par ce sujet parce qu'il y a forcément des personnes autour de toi qui ont eu des enfants. Donc tu as forcément eu dans ton entourage des femmes enceintes, des parents avec des tout-petits, des bébés, tout ça. Et donc, c'est forcément un sujet qui te concerne aussi. Ça va donc être l'occasion d'apprendre plein de vocabulaire sur ce sujet. Dans l'imaginaire collectif, être enceinte, c'est un moment paradisiaque, mais la vérité, c'est que c'est pas toujours aussi idyllique qu'on l'imagine, hein, même quand c'est une grossesse désirée. Parce que quand on tombe enceinte, on plonge un petit peu dans l'inconnu. Alors oui, il y a des aspects positifs. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai adorées de la grossesse. Par exemple, quand on attend un heureux événement, on est traité comme une reine, hein, tout le monde est aux petits soins avec nous, on se fait dorloter, on se fait chouchouter, tout le monde est là pour faire en sorte qu'on se fatigue pas trop. Personne va te reprocher d'aller dormir. Et moi, quand j'étais enceinte, je me rappelle que je pouvais dormir 14 heures par jour sans recevoir la moindre critique. Évidemment, en dehors de ces périodes, si je faisais ça, j'étais traitée de feignarde. Personne ne va t'en vouloir non plus si tu n'as pas une maison impeccable. Il y a plein de personnes qui vont être prêtes à te rendre service si elles voient que tu as du linge qui s'est accumulé, tu n'as pas fait la vaisselle, tout ça. Franchement, quand j'étais enceinte, j'en profitais un petit peu. Hein. Moi, je sais qu'avec avec mon mari, voilà, j'en profitais. Je n'avais pas trop envie de me fouler. J'étais fatiguée, je me reposais et lui, il était aux petits soins. Plus besoin de rentrer son ventre non plus, ça c'est un autre avantage, hein. Adieu le gainage, d'habitude t'es toujours là à faire attention, à bien tenir, pas faire ressortir ton ventre, là plus besoin puisque ton ventre de toute façon, hein, il va sortir quoi que tu fasses et personne va te critiquer pour ça. Moi, quand je prenais du poids, personne m'a embêté avec ça parce que, au contraire, voilà, on sait que il faut manger, pour deux. Le polichinelle dans le tiroir, lui aussi, il a besoin de se nourrir, même si, évidemment, il faut pas manger deux fois plus que d'habitude. Mais en tout cas, on t'embête pas avec ça. Et puis, c'est quand même incroyable cette sensation du bébé qui commence à bouger dans ton ventre. C'est quelque chose d'incomparable. Alors moi, au début, j'étais pas trop, c'était pas trop clair pour moi. Ça faisait comme une sorte de petit, je sais pas, comme si j'avais des petits papillons dans le ventre qui virevoltaient. Et puis un jour, j'ai réalisé que c'était le bébé en fait. Mais comme c'était vraiment au tout début, bah, je pensais pas du tout que ça pouvait être ça. Mais la grossesse, eh bien, c'est aussi pas mal de galères. Hein. Quand t'es en cloque, eh ben, t'as tous les maux qui vont avec. Alors les nausées, si t'es sujette aux nausées, surtout le premier trimestre de grossesse, c'est horrible. Tu passes ta matinée, voire ta journée, la tête dans les chiottes. Puis t'as la nausée à la moindre odeur un peu trop forte. Il y a plein de trucs qui t'écœurent. Les aigreurs d'estomac, ça aussi j'ai connu. Heureusement, j'ai pas connu la rétention d'eau, mais j'ai des copines qui ont eu ça et donc qui gonflaient des jambes. Les pauvres, c'était vraiment très dur, surtout quand c'était en été et qu'il faisait chaud. Moi, j'ai pas connu ça, heureusement. Et puis, bah voilà, l'impression d'être barbouillée en permanence, pas trop savoir ce que tu peux manger, parce qu'il y a tellement de trucs qui finissent par t'écœurer, enfin c'est vraiment pas cool. Alors il y a des femmes qui ont des envies de femmes enceintes, des envies un petit peu bizarres des fois, qu'on contrôle pas vraiment, qui n'ont pas vraiment de logique, c'est pas forcément des choses qu'on mange habituellement. Et puis les frustrations, voilà, tu peux pas manger de trucs crus, alors adieu les sushis, pas de charcuterie. Pour moi c'était pas évident, c'était pour le jambon, la charcuterie espagnole, comme j'habitais en Espagne. Après bon, c'est pas forcément parce que t'en manges qu'il va t'arriver quelque chose, mais du coup, voilà, comme on te met le doute là-dessus, bon, bah, t'as pas trop envie de tenter le diable. La vessie de moineau, ça aussi, l'envie d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Alors, surtout, moi j'ai vécu ça surtout la fin de la grossesse. Et puis bah même la nuit quoi. Alors la nuit aussi, ça c'est un truc qui est pas évident, c'est de dormir. Déjà trouver une position confortable quand t'as un gros ventre, c'est pas évident. Tu utilises le coussin de grossesse des fois pour te caler, mais c'est pas toujours facile de trouver une position confortable. Et puis des fois t'as des douleurs, tu te sens voilà, enfin ton corps forcément est différent, le bébé il bouge. Alors ça c'était systématique, moi dès que je m'arrêtais pour me reposer, je commençais à sentir le bébé qui s'agitait. En gros, il aimait bien que je bouge pour être bercée et une fois que je m'arrêtais, ben, il devait se dire « Non mais c'est quoi ce truc là? Moi j'aime bien quand ça gigote. » Les bébés, en fait, souvent, ils aiment tellement qu'on les berce, qu'on les secoue un petit peu, quoi, pour qu'ils s'endorment. Je me dis, en fait, c'est normal, parce que quand ils sont dans notre ventre, eh bien, ils sont habitués à ce que ça bouge. Et quand, par contre, on s'allonge pour essayer de se reposer, bah là, ils commencent à s'agiter, quoi. Les rendez-vous médicaux, ça c'est un truc qui est pas hyper cool non plus. Alors les échographies, des fois c'est bien parce que du coup tu vois ton bébé, donc c'est un petit peu plus réel, même si des fois il y a des gynécos qui sont un petit peu trop insistants, je trouve, qui vont vraiment chercher la petite bête ou qui te font stresser des fois pour rien. Les prises de sang et tous les tests qu'il faut faire, ça aussi c'est... Non, j'ai pas envie de revivre ça. Le test notamment, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, parce que moi comme j'ai été enceinte en Espagne, c'est le test qui permet de vérifier combien de temps ton corps met à éliminer le glucose dans ton sang. Et en fait, ils te font boire une boisson hyper sucrée, mais un truc absolument écœurant, Puis déjà, rien que ça, ça te donne envie de vomir, tu vois. En plus, quand tu es enceinte et que tout est cœur, c'est encore pire. Ça, je l'ai fait pour mon premier. Pour le deuxième, j'ai pas fait. Pour la deuxième grossesse, j'ai pas voulu faire ce test. J'ai trouvé ça trop écœurant, c'était une horreur. Et puis un autre truc qui est vraiment pas cool, c'est la fin de la grossesse, quoi. Les dernières semaines où faut te farcir les kilos en trop, hein, de tout ce que t'as trop bouffé. Et tu te sens un petit peu comme une baleine échouée. T'arrives pas à te traîner des fois. Tu te trouves super lourde, chaque pas devient un effort considérable. Alors moi, j'envie vraiment les femmes qui, en étant enceintes, continuent presque à avoir une taille de guêpe. Enfin, elles restent toutes menues, il y a juste leur ventre qui grossit. L'accouchement, le plus beau jour de sa vie. Alors oui, ça peut l'être, mais ça peut aussi être un cauchemar. Alors déjà, quand tu es enceinte, tu lis frénétiquement tous les bouquins sur l'accouchement. Enfin, moi, j'étais comme ça. Hein. Je lisais tout. Alors, je lisais pas tout et n'importe quoi, par contre. Je lisais vraiment que les trucs que je trouvais inspirants. Je voulais pas lire des trucs qui allaient pouvoir me stresser. Non, moi, je voulais lire des choses qui me faisaient me sentir bien, qui me donnaient confiance en moi. Et puis alors, toutes les vidéos que j'ai pu voir sur des accouchements naturels, les accouchements dans l'eau, les accouchements avec les dauphins, voilà. Enfin, j'étais une vraie Madeleine, quoi. Dès que je voyais une vidéo d'une naissance, je pleurais, mais d'émotion, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie que quand j'étais enceinte. Les cours de préparation à l'accouchement, ça j'ai plutôt bien aimé. La sage-femme qui les faisait là où j'habitais, elle était sympa, elle était rigolote. Elle nous faisait voir les choses d'une façon assez amusante, on va dire. Moi, je me suis énormément préparée pour l'accouchement. Quoi, j'avais l'impression de devoir faire un master en accouchement. Et j'avais décidé donc d'accoucher sans péridurale, d'accoucher de la façon la plus naturelle possible, parce que j'étais convaincue que j'étais capable de le faire. Mais bon, ça c'était avant de me retrouver en plein travail et de douiller ma race, quoi. Alors bon. Je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix, bien au contraire. Alors moi, il y a un truc qui m'amuse tout le temps, dans les films et dans les séries, principalement dans les films et les séries américains, c'est que t'as une femme enceinte, elle perd les os, et tout de suite, direct, elle va à l'hôpital. Et tout le monde va à l'hôpital avec elle. Alors, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça aux États-Unis, les accouchements. En tout cas, ni en France, ni en Espagne, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, la seule personne qui va t'accompagner pendant ton accouchement, c'est la personne avec qui tu vis. Pas tous les copains, toute la famille, tout ça. C'est juste la personne avec qui tu es en couple, en fait. Et puis, on te dit bien, il ne faut pas aller à l'hôpital ou à la maternité ou appeler la sage-femme si tu accouches chez toi immédiatement. Parce que l'accouchement, ça peut être long. Et donc, si tu perds les os, ça ne veut pas forcément dire que tu vas accoucher dans 2 heures, quoi. Il y a des femmes qui ont des accouchements express, tant mieux pour elles. Mais généralement, un accouchement, c'est long, c'est très long. Et donc, moi, ça m'amuse toujours dans les films et les séries de voir que déjà, tu vas perdre les os dès le départ, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent les os à la fin de l'accouchement, juste avant que le bébé naisse. Et puis, direct, vite, il faut se presser, c'est la panique et tout. Alors que non, calmos, ok, tu commences à avoir les premières contractions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut direct te mettre à paniquer, quoi. T'as carrément le temps. Donc moi, je m'étais plutôt bien préparée de ce point de vue-là. Je m'étais dit, non, j'attends le maximum de temps à la maison. Je vais pas me précipiter. Voilà, je fais de la relaxation. Je prends un bain pour me détendre parce que je me doutais que ça allait être long. Alors l'accouchement, oui, c'est un moment merveilleux. C'est la naissance de ton bébé, mais c'est aussi le moment le plus difficile de ta vie. T'as l'impression que tu vas mourir, en fait. D'ailleurs, il y a un truc assez amusant, c'est qu'une fois que le bébé est né, si tu n'as pas eu de péridurale, d'anesthésie, tout ça, ton corps, il va produire immédiatement de l'ocytocine et des hormones qui vont faire que tu vas oublier la douleur, tu vas oublier combien ça a été dur, parce qu'en fait, sinon, tu voudrais jamais avoir à nouveau un bébé, quoi. Alors, il y a des femmes qui vivent mieux l'accouchement que d'autres, hein, je sais, il y en a pour qui c'est très simple, ça passe comme une lettre à la poste. Mais bon, on va dire que globalement, c'est quand même un sacré boulot, hein, et le travail, il peut durer des heures et des heures. Et puis, tu as la peur aussi de te faire charcuter parce que tu sais pas en fait comment l'accouchement il va se passer, si jamais on doit te faire une césarienne ou une épisiotomie. Merci du cadeau, quoi. Et moi, j'ai remarqué en Espagne par rapport à la France, parce que comme moi, mes enfants sont nés en Espagne, j'ai eu cette expérience là-bas, mais j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui ont eu leurs enfants en France. Et ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, en Espagne, c'est beaucoup plus médicalisé qu'en France. Alors moi, j'ai pas eu ça parce que justement, je m'étais préparée pour un accouchement pas du tout médicalisé. Et donc, vraiment, j'ai eu à chaque fois les accouchements que je voulais. L'émotion de la rencontre avec le bébé, ça c'est un truc incroyable. Ça m'a vraiment énormément marquée. Et aussi cette impression que j'étais une guerrière, quoi, que j'étais capable de tout faire. Alors malheureusement, quand ça se passe pas bien, évidemment, on n'a pas cette sensation. Quand l'accouchement se passe pas bien, bah, au contraire, on peut se sentir vraiment mal. Et puis après, bah, en fait, c'est pas le plus dur, l'accouchement. Le problème, c'est que tu te focalises généralement sur ça. Donc, on se prépare pour l'accouchement, mais on se prépare pas assez à la suite. En fait, on n'est jamais assez préparé pour devenir parent. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde, qu'on ait déjà de l'expérience avec des bébés ou pas. Moi, j'avais déjà gardé des enfants, je m'occupais des bébés dans la famille, j'adorais ça, j'adorais faire jouer les nounous. Mais alors, quand c'est ton enfant et que tu en as l'entière responsabilité 24 heures sur 24, c'est vraiment autre chose. En plus, tu as le baby blues, les montagnes russes émotionnelles. En fait, tu te sens nul, tellement nul. Même si tu es accompagné, tu peux te sentir complètement seul. Tu te retrouves à pleurer dans ton coin, à pleurer avec ton bébé dans les bras parce que tu trouves que tu es une maman, mais tellement, tellement, tellement nul. Alors que peut-être quelques jours avant, c'était le bonheur infini, quoi. S'occuper d'un bébé, moi je pense que c'est certainement la chose la plus dure qu'on puisse faire dans une vie. On n'est jamais prêt pour ça. Il y a la fatigue abyssale, les nuits blanches, le bébé qui pleure pendant des heures et tu sais pas pourquoi, tu es désespéré, tu penses que tu es la pire des mères au monde. Et le papa pareil, hein, le papa il peut sentir vraiment qu'il sait pas, qu'il est perdu, qu'il sait pas quoi faire non plus. Alors moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir un conjoint très 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 impliqué avec les bébés. Et donc, je pouvais vraiment compter sur lui quand j'allais pas bien. Il pouvait passer toute la nuit à s'occuper du bébé qui pleurait, alors que moi, j'en étais absolument incapable. Et puis, le manque de sommeil, ça peut rendre vraiment fou, quoi. On a l'impression de vivre au radar toute la journée. T'as plus une minute à toi. T'as plus le temps de ranger la maison. T'as pas le temps de faire la lessive. T'as même pas le temps, des fois, de prendre une douche. Avant d'avoir ton bébé, tu penses naïvement que toi, tu vas pas faire comme les autres mamans, que tu vas continuer à vivre une fois que ton bébé sera là, que voilà, tu l'intégreras dans ta vie. Moi, je faisais du yoga avant d'être enceinte et pendant ma grossesse, j'ai continué jusqu'au dernier jour. Et naïvement, je me disais, bah, quand mon bébé sera né, je le poserai à côté de moi et je pourrai faire du yoga, tout ça. Sauf que mon bébé, le premier en tout cas, il voulait absolument pas que je le pose pour faire mon yoga. Il voulait pas non plus que je le tienne dans un porte-bébé. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça, des femmes qui ont le bébé en écharpe de portage et qui font leur yoga. Mais moi, mon bébé, il voulait pas entendre parler de ça. Hein. Il voulait juste que je le tienne dans mes bras et je le promène. Et voilà, il voulait pas rester tranquille sur moi pendant que je faisais du yoga, ni à côté de moi, c'était impossible. Puis après, le bébé, quand il grandit un petit peu, bah, il te grimpe dessus. Dès que tu te mets par terre, dès que tu t'allonges ou tu te mets à quatre pattes pour faire tes exercices, le bébé, il te grimpe dessus. Donc, en gros, j'ai arrêté complètement de faire du yoga pendant un certain temps. L'allaitement, c'est encore un autre monde. En fait, à partir du moment où tu es enceinte, tu vas de découverte en découverte et tu rentres dans un monde complètement inconnu. L'allaitement, là aussi, c'est quelque chose en fait, que tu ne peux pas imaginer. Donc, tu peux décider ou pas d'allaiter ton bébé, mais si tu décides d'allaiter ton bébé, forcément, tu imagines que tout simplement, tu vas sortir ton sein, le bébé va s'accrocher, il va t'aider, et voilà, et ça va être merveilleux. Et même si tu t'es préparée, parce que moi, je me suis beaucoup préparée pour l'allaitement, parce que j'avais des copines qui allaitaient, et elles m'avaient dit, informe-toi, prépare-toi, tu vas voir, c'est pas très facile. Bah, effectivement. Parce que tu peux avoir des crevasses, le sein qui s'engorge, il y a trop de lait, le bébé n'arrive pas à prendre le sein. Enfin, en gros, c'est vraiment pas évident, que ce soit pour la maman ou pour le bébé, c'est vraiment pas évident d'allaiter, surtout son premier enfant. Moi, j'ai allaité mes enfants pendant longtemps, mais au début, ça a vraiment pas été facile du tout. Et si j'avais pas eu de soutien, mais j'aurais laissé tomber, hein, c'est clair. Et puis un autre truc auquel il faut faire face, c'est tous les conseils non sollicités qu'on te donne à partir du moment où tu as ton premier enfant. Avec les suivants, c'est beaucoup moins, mais alors avec le premier, on n'arrête pas de te dire ce que tu dois faire, comment tu dois t'occuper de ton bébé. Et comme moi j'étais en Espagne, ce qui était hallucinant, c'est que dans la rue, des femmes qui ne me connaissaient absolument pas, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, elles m'arrêtaient pour me donner des conseils. Ah non, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, ne le prends pas trop. Ça, c'était le conseil le plus courant. Ne prends pas trop ton bébé, il va être mal habitué. Et moi, j'avais envie de dire, mais mêle-toi tes fesses. Alors, bien sûr, je disais pas ça, mais en gros, je laissais causer, hein, je laissais dire, mais après, j'en faisais qu'à ma tête. Je n'écoutais pas les conseils de ce genre. Ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre. Et je m'en suis très bien portée. Hein. Mes enfants, je les ai pris dans mes bras, j'ai dormi avec eux tant qu'ils voulaient pas dormir tout seul. Et franchement, aujourd'hui, c'est des ados en parfaite santé, des ados autonomes qui rêvent d'indépendance. Et crois-moi, ils n'ont pas du tout envie de dormir avec moi aujourd'hui. Le fait de devenir maman dans un pays étranger, alors que forcément, j'avais pas ma famille autour de moi, évidemment, c'est pas facile. Il y a des moments qui sont pas faciles, même si j'avais des amis, des personnes qui pouvaient m'aider. À ce moment-là, en fait, je me suis beaucoup investie dans la vie associative. J'ai fait partie de plusieurs assos, j'en ai même créé des assos de soutien à la maternité, à l'allaitement, de soutien entre parents. Et ça a vraiment été l'occasion de créer de belles amitiés avec d'autres personnes. Et en fait, à partir du moment où tes parents, tu passes ton temps avec d'autres parents. Déjà parce que tu as besoin de soutien, tu as besoin d'être avec des parents du coup qui, comme toi, comprennent ce que c'est, savent par quoi tu passes. Et en plus, parce que je pense que les personnes qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent supporter modérément la présence de bébés et de tout petits, mais ils vont pas les supporter pendant des heures et des heures. Alors que finalement, entre parents, on est habitué aux interruptions, aux cris, aux pleurs, enfin voilà, c'est notre quotidien. Donc le fait d'être avec d'autres parents et de voir que pour les autres parents, c'est pareil. Leurs enfants, c'est pareil. Ils font toujours pas leur nuit, c'est pareil. Ils arrêtent pas de pleurer par moments, c'est pareil. Ils font des caprices. Tout ça, ça rassure aussi. On se sent moins seul. Donc comme je vous disais, moi j'ai eu mes deux enfants en Espagne. Et mes enfants, en fait, c'est des bébés Erasmus. Les bébés Erasmus, c'est les fruits des couples qui se sont créés lors des échanges Erasmus, donc les bourses européennes qui permettent aux étudiants de faire leurs études à l'étranger. Il y a énormément de bébés Erasmus aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de couples binationaux qui se sont créés à partir de là. C'est grâce à la bourse Erasmus que j'ai obtenue que je suis partie étudier en Espagne et c'est là-bas que j'ai rencontré leur papa. Alors, une petite anecdote amusante, c'est que quand je suis arrivée en Espagne, forcément, il y avait plein d'autres étudiants Erasmus là où j'étais. Et les étudiantes Erasmus en particulier, donc les filles en particulier, elles avaient la réputation d'être des filles faciles. Parce qu'évidemment, les étudiantes étrangères, tu t'imagines toujours qu'elles sont plus libérées, plus faciles que les étudiantes de ton pays. Donc, les étudiantes étrangères, pour les Espagnols, c'était les filles facile. Ce qui, évidemment, n'était pas forcément le cas, hein, c'était un stéréotype. Mais disons qu'il y avait cette idée que les étrangères qui venaient par les bourses Erasmus, eh bien, en fait, elles venaient pour passer du bon temps, donc elles avaient envie, quoi, de s'amuser, de rencontrer des hommes espagnols, tout ça. Et donc, la bourse Erasmus, de façon humoristique, pour se moquer, ils l'appelaient la bourse Orgasmus. Donc, de orgasme, comme quoi, si tu venais avec la bourse Erasmus, forcément, tu couchais avec plein de mecs. Enfin, voilà, c'est juste une anecdote que je trouvais un petit peu amusante, ce nom assez rigolo de bourse Orgasmus. En tout cas, les échanges Erasmus, eh bien, ils ont fonctionné, je pense, mieux que les sites de rencontres, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de couples qui se sont créés à partir de ça. J'espère que tu as apprécié cet épisode un petit peu différent des sujets que je traite habituellement. Évidemment, je t'invite à partager ton expérience, tes anecdotes, si tu as envie, dans les commentaires. Comment tu as vécu, toi, la grossesse, la naissance de tes enfants? Est-ce que dans ton pays aussi, les femmes enceintes, eh bien, on les traite d'une façon un petit peu différente? On les dorlote, on prend soin d'elles? En tout cas, j'ai très hâte d'écouter vos histoires et vos réactions à ce sujet. Et donc, on se voit la semaine prochaine pour un petit cap ou pas cap. Et dans 2 semaines, eh bien, ça sera l'épisode du podcaston avec ma copine Claire, avec laquelle on aura une discussion très sympathique. Allez, je te laisse, je te souhaite une belle semaine. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de ton français. À plus!